Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec le format Highlight avec l'incontournable Benjamin Carlier. Salut Benjamin.
Salut Pierre.
Merci encore d'être là pour aborder l'actualité économique et institutionnelle du sport, et comme d'habitude elle est particulièrement riche. Et on va commencer par un événement assez fort, assez clé qui s'est passé début mars à Paris, qui est du lancement de la nouvelle filière, nouveau contrat de filière entre le ministère de l'économie, le ministère des sports, et qui a réuni un petit peu tout l'écosystème économique, sport, sport-tech, et je crois que tu y étais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, alors la filière sport, qu'est-ce que c'est? C'est une filière qui a été instituée en 2016 par effectivement le ministère de l'économie et des finances, le ministère des sports, le ministère des affaires étrangères, représenté par le commerce extérieur. C'est en fait une instance de concertation publique-privée qui vise à mener une réflexion, à identifier, à mettre en œuvre les leviers de croissance autour de l'économie du sport. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est quelque chose qui était particulièrement important et nouveau en 2016 quand on l'a créé. Aujourd'hui, l'économie du sport, tout le monde en parle, tout le monde l'a en tête, mais c'est pas forcément quelque chose qui était fort et présent à l'époque. C'est concomitant en plus avec toute la période de candidature et d'attribution au jeu. Et aujourd'hui, ce qui n'arrive pas toujours hein, au niveau de l'État et des grandes instances, mais il y a une reconnaissance du fait qu'il y avait besoin d'un nouveau souffle quand même, parce que les choses végétaient un petit peu de temps en temps et qu'il y avait besoin d'une nouvelle dynamique. Et donc, c'était l'objet de ce relancement à Bercy, avec un rappel forcément des chiffres qui sont toujours intéressants sur le fait qu'on soit monté à 2,6% du PIB sur le secteur du sport. On parlait de 2%, on a parlé de 2% pendant des années. Là, on est quand même bien au-delà. Et puis, de 450 000 emplois, ça fait du bien de le rappeler aussi de temps en temps. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette nouvelle feuille de route? Ça veut dire qu'il y a une nouvelle organisation, une organisation avec un comité stratégique, avec des personnes qui siègent officiellement et qui sont plus nommées un tutu personné, c'est-à-dire qui sont les représentants des différents syndicats professionnels ou acteurs de l'économie du sport. Donc ça, c'est intéressant. Et puis une organisation autour d'axes de travail qui permettront à tout simplement des groupes thématiques d'émerger. Il y en a un autour du développement d'une pratique durable. C'est intéressant de voir que ça arrive en numéro 1, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience collective globale que c'est une importance capitale de travailler sur la durabilité de l'économie du sport. On peut faire un petit parallèle sur le fait qu'il y a la grande collecte qui a été lancée par ailleurs avec tous les acteurs du sport, c'est-à-dire la collecte de tous les objets du recyclage dans le sport. C'est un vrai grand sujet, le recyclage du matériel sportif, et c'est un sujet d'actualité. Il y a un axe autour de l'accompagnement à la consolidation des modèles économiques du sport. C'est très intéressant aussi parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le monde du sport qui souffrent d'un modèle économique qui est pas forcément cohérent, qui est compliqué. On peut penser aux clubs professionnels qui ont un modèle économique qui est quand même assez instable. On peut penser aux associations sportives, bien sûr, mais aussi à plein d'entreprises qui, dans le monde du sport, ont un modèle économique qui est un peu tangent. Et donc, il y a une volonté de renforcer tout ça. Bien sûr, il y a un axe numéro 3, tu me vois venir, auquel je suis particulièrement attaché, qui est l'innovation et l'accompagnement de la sport-tech et de l'e-sport. Des sujets importants avec des idées de création de fonds d'accompagnement, avec le rappel de tout ce qui avait été évoqué lors de l'atelier d'impulsion politique de novembre consacré à la sport-tech dont on avait déjà parlé. Et puis après, deux autres axes autour de l'internationalisation et de la formation, parce que la formation est un sujet aussi clé dans la filière sport. Donc écoute, juste pour conclure sur cette partie-là, il y a rien de nouveau et d'extraordinaire, certes, mais comme je le dis à chaque fois que tu m'invites à faire ce highlight, moi je suis content quand on parle d'économie du sport.
Ouais, dans le bon sens, ouais.
Quand la dynamique est rappelée, et je me souviens de là où on était il y a pas si longtemps que ça, et donc là le fait qu'il y ait trois ministres qui prennent la parole sur un sujet à Bercy en rappelant les objectifs, qu'il y ait une volonté de redynamiser les choses, qui se disent il faut aller plus loin, il faut reprendre la dynamique, bah c'est toujours une bonne nouvelle. Alors forcément on en attend beaucoup, on espère que toutes les actions qui sont annoncées dans cet avenant au contrat de filière pour pouvoir être mise en place rapidement, mais on y croit, et comme je te le dis toujours, une satisfaction de voir que ce sujet de l'économie du sport tout simplement fait le devant de la scène.
Ouais, je le mettrais aussi en miroir ou en parallèle avec les initiatives de la BPI récemment qui va du coup créer une structure spécifique au sport avec un fonds qui sera un peu spécifique au sport si je ne m'abuse.
Un accélérateur pour être exact, ouais. C'est-à-dire qu'en fait ce que fait la BPI sur un certain nombre de thématiques, c'est qu'il crée un accélérateur qui chaque année, alors pendant 3 ans à minima, va accompagner entre 15 et 25 boîtes. Ça peut être des startups, mais ça peut être aussi des PME ou des ETI, et en gros va leur offrir un coaching de luxe. De par les équipes de la BPI, de par des rencontres avec des acteurs extérieurs, etc., etc., pour changer d'échelle, pour se développer, etc., etc. Donc on y croit pas mal et c'est toujours intéressant et effectivement que la BPI aussi s'intéresse de plus en plus à cette thématique.
Ouais. Et une autre actu, du coup peut-être plus du côté des États-Unis, on a vu que la grande banque d'affaires JP Morgan avait construit une équipe spécifique dans l'investissement dans le sport avec toute une explication comme quoi le sport était une classe d'actifs d'avenir qui était en forte croissance et que ça nécessitait que les banques d'affaires, les grandes banques d'affaires s'y intéressent et construisent des expertises métiers sur ces sujets-là. Donc voilà, ça va un petit peu dans le sens. Tu voulais aussi aborder la Compagnie des Alpes dans ce grand sujet, pourquoi ?
Ouais, très rapidement, parce que la Compagnie des Alpes, forcément, on pense station de ski et on pense pas forcément sport à part entière, même si on sait que, bien évidemment, le ski est un sport, mais on pense plus tourisme, on y reviendra d'ailleurs au tourisme, et loisirs, parce que parc d'attractions, etc. Et viennent d'annoncer, alors pas encore officiellement le rachat, mais en tout cas le fait de rentrer dans une procédure exclusive de négociation avec le groupe Urban Soccer et Urban Paddle. Et je trouve que ça va tout simplement dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour les plus grands groupes, parce que la Compagnie des Alpes, c'est juste le plus grand groupe européen de loisirs, hein, c'est énorme, c'est considérable. Le fait qu'ils viennent sur un sujet qui était quand même un peu un sujet d'entrepreneuriat un peu à l'arrache il y a encore 10 ans, hein, les centres de foot à 5, on a tous été dans des centres qui étaient un peu quand même, jamais mytho, mais c'était quand même, des fois on allait dans des zones industrielles complètement perdues, on savait pas trop où on débarquait, etc. Aujourd'hui la Compagnie des Alpes, elle juge quand même que c'est que Urban Soccer ça nécessite et ça mérite d'être étudié, d'être acheté, et puis tout ça va avec un sujet qui est quand même super intéressant, c'est que justement on parle de la Compagnie des Alpes comme plus grande entreprise du loisir en Europe, et le loisir c'est du sport, et moi j'aime bien que le sport soit aussi qu'on rappelle que le sport c'est du loisir, oui. Et que c'est avant tout un loisir et un divertissement pour plusieurs raisons. Un, parce que même si j'aime beaucoup le sport santé, j'aime pas l'injonction du sport pour la santé, donc j'aime bien qu'on rappelle que ce soit un loisir. Et puis surtout mettre le sport comme le loisir, ça veut dire qu'on vient mettre le sport en opposition frontale et directe avec la télévision, avec les plateformes de streaming, avec les jeux vidéo en partie. Et moi ça me va bien parce qu'on vient mettre le sport du coup vraiment comme justement un loisir qui n'est pas sédentaire, et ça c'est quand même peut-être très positif pour notre jeunesse de manière générale, mais pour nous tous.
Ouais. Écoute, on passe au deuxième sujet. On en avait déjà parlé ici. La LFP il y a quelques années racheté Mon Petit Gazon, MPG, et un des outputs, si je peux dire, de cette association, c'est le jeu de fantasy qu'ils viennent de créer, les cartes fantasy qu'ils viennent de créer, et on voulait réaborder ce sujet.
Ouais, c'est très intéressant parce que du coup forcément MPG a été racheté par la société commerciale de la Ligue de football professionnel, et les équipes de MPG, tout partie, mais en tout cas une grande partie, ont intégré cette équipe-là, notamment Martin Jaglin qui est un des fondateurs de MPG. Et du coup, forcément, au sein de la LFP maintenant, ils ont pour mission de continuer le développement de MPG, mais ils ont aussi en charge le développement de nouveaux projets. C'est ce sur quoi ils ont travaillé, avec un jeu effectivement de cartes virtuelles. Donc on est un peu entre MPG et Sorare pour créer les choses avec une dimension peut-être un peu moins
financière.
Oui, un peu moins financière que Sorare, et puis une dimension, on va dire, plus large et grand public que MPG, qui reste quand même un jeu un peu de spécialiste qui suit les choses. On va voir ça vraiment. Enfin, moi, je vais regarder ça avec beaucoup d'intérêt parce que il y a Arnaud Soroy qui travaille beaucoup sur le sujet de digitalisation des associations sportives de manière générale, et qui travaille à l'université de Poitiers, qui dit régulièrement, et je suis assez d'accord avec lui, que jamais les applications ou les innovations qui viennent des institutions fonctionnent, par essence. C'est-à-dire que, en gros, une appli, elle ne marche jamais quand elle vient du grand groupe. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les Runkeeper, etc., ont été rachetés par Nike ou par Adidas, que, etc., etc. C'est rarement le grand groupe qui réussit lui-même à créer la nouvelle application ou l'innovation. Et là, on va voir si justement l'intégration des équipes de MPG au sein de la ligue permettent à une institution d'innover et de faire fonctionner une innovation. Parce qu'on sait que ce type d'innovation, ça fonctionne s'il y a beaucoup d'agilité, s'il n'y a pas beaucoup de... Si à un moment donné, les prises de décision peuvent être rapides, si s'il peut y avoir des petits pivots qui sont faits rapidement quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, si on peut faire évoluer les choses, est-ce que au sein de la ligue il y aura cette possibilité pour les anciennes équipes de MPG? Est-ce que du coup ça va fonctionner, et est-ce que du coup ils ont réussi à craquer un petit peu le sujet en rachetant MPG et en intégrant leurs équipes, en étant capables de sortir eux-mêmes leur propre appli qui fonctionne? Ça va être très très intéressant à regarder.
Ouais. J'ai enregistré avec le patron du digital, Christophe Charmoil, un épisode il n'y a pas si longtemps, que je vais diffuser dans quelques temps. On en parlait rapidement. Il y a quand même, à travers ces cartes qui s'appellent Coach Ligue 1, du coup, l'intention d'aller acquérir de nouveaux fans et d'avoir une démarche très direct to consumer pour la LFP, qui, par le passé et historiquement, s'est toujours mis entre les mains des diffuseurs. Et donc là, c'est aussi symptomatique du shift, du basculement qui est en train de s'opérer à la LFP. Et en effet, on verra si Coach Ligue 1 va réussir. C'est quand même, moi, je trouve, assez osé, en tout cas assez risqué comme pari. Je ne m'attendais pas à ça.
C'est assez osé, c'est assez risqué. Mais effectivement, enfin, en tout cas, d'un point de vue stratégique et d'un point de vue positionnement, ouais, c'est très intelligent. C'est-à-dire que moi, je pense que le positionnement est très intelligent. Je pense que c'est là où il faut aller. Je pense qu'ils sont très malins. Ils ont pris les bonnes décisions. Maintenant, entre avoir la bonne stratégie et bien l'exécuter, bah là encore une fois, on va vraiment voir si un acteur autre qu'une startup peut bien exécuter ce genre de projet. Et ça va être très très intéressant à suivre.
Bon, on se note dans un an de faire le bilan. On voulait aussi parler du FIZ. Le FIZ, toi, tu connais bien, c'est un des festivals internationaux des sports extrêmes qui a été créé par un Montpellierain qui s'appelle Hervé-André Benoît, qui est aussi passé sur le podcast. Donc, c'est une petite boîte de Bayard, je crois, à côté de Montpellier. Un projet étudiant qui s'est transformé en une boîte avec un impact mondial et une influence aussi assez forte, parce que grâce à lui, les sports extrêmes ont aussi toqué à la porte du mouvement olympique. C'est pas grâce à lui évidemment, mais il est un des acteurs majeurs de cette grande vague que sont les sports extrêmes, et on voulait revenir sur ça. Je t'écoute à ce sujet.
Ouais, c'est super intéressant, l'histoire du Hurricane. Effectivement, tout le monde ne la connaît pas forcément, mais c'est un petit festival des sports extrêmes qui naît à Montpellier en 97. Donc ça fait un moment maintenant, parce que uniquement par la passion. Donc il y a pas le côté entrepreneurial au départ, enfin un tout petit peu forcément, il y a une fibre, mais c'est vraiment la passion, et c'est de se dire ces sports-là méritent aussi d'avoir leur festival, d'être vu, d'être mis en valeur. Et puis petit à petit, c'est monté. C'est avant tout le FIZ, un événement qui aujourd'hui est colossal, puisque c'est plus de 600 000 personnes qui viennent à Montpellier. Et c'est des FIZ World Series ou des FIZ, des mini FIZ partout en France. Donc maintenant, il y a plus de 20 événements sous le label FIZ. Donc ça vient un peu partout. L'intelligence entrepreneuriale, elle est d'avoir créé bien sûr la boîte qui va bien à côté, qui s'appelle Hurricane, qui crée à la fois le matériel, parce que forcément ils ont dû développer leur propre matériel avec leurs propres spécificités, la capacité de livraison, la capacité d'installation, et donc ils vendent ce matos partout dans le monde. Et puis l'histoire, elle devient encore plus incroyable depuis une dizaine d'années, puisque effectivement, comme le fait régulièrement le mouvement sportif international, se met à comprendre qu'il faut aller vers ces sports-là. Et du coup, en fait, plutôt que d'essayer de recréer ex nihilo, c'est là aussi où le mouvement sportif international est de plus en plus malin sur ces sujets-là, il se met tout simplement en partenariat. Et donc aujourd'hui, au FIZ, il n'y a pas simplement le festival qui était sa propre compétition interne, mais en fait, il y a les championnats du monde de plusieurs disciplines qui sont organisées, labellisées par l'UCI, avec un travail bien sûr d'officialisation de tout ça et de normalisation de tout ça au sens de la norme. Et puis bien sûr, Hurricane va opérer du coup les sports extrêmes / sports urbains, parce qu'en fait, il y a le basket 3-3 qui rentre aussi maintenant au FIS, etc. Et Hurricane est une des entreprises qui va opérer tout ça au Troca à Paris 2024, et donc ça risque d'être très très sympa, et c'est quand même une aventure assez extraordinaire entre le passionné qui monte son petit truc dans sa ville natale et le groupe international qui opère les jeux et opère les championnats du monde internationaux.
Ouais, non, je vous recommande vraiment cet épisode parce que, encore une fois, Hervé Andrebet, il est finalement assez atypique dans les profils d'entrepreneurs que j'ai pu recevoir sur le podcast. Et surtout, moi, je trouve qu'il avait une espèce de symbolique assez forte entre les sports qu'il pratique, où tu tombes tout le temps, tu te fais tout le temps mal, mais tu te relèves pour de toute façon passer ton trick. Et il a fait un parallèle entre l'entrepreneuriat et son sport. Il dit, mais de toute façon, moi, je tombe tout le temps et je chute tout le temps. Et c'est un peu ce qui est consubstantiel à ces sports-là. Donc, c'est très proche d'un mindset d'entrepreneur. Et je trouvais que c'est assez intéressant le parallèle qu'il faisait entre ça, entre ces deux trucs-là. Pardon. Écoute, encore une fois, vive Montpellier et l'Occitanie. Hein. Plein de choses, choses qui se passent là-bas. Je te propose de passer au quatrième sujet, qui est une grande étude sur le tourisme sportif que vous avez aussi orchestrée côté Olbia et qui laisse apparaître des enseignements assez intéressants. Tu voulais revenir dessus?
Ouais, tout à fait. C'est une étude qui a été commandée là aussi par le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère des Sports via le pôle des ressources nationales de sport et innovation, notamment le PRNSI, autour du tourisme sportif et qui visait à comprendre un peu mieux le tourisme sportif, parce qu'on en parle beaucoup et on en mais finalement les contours sont assez peu déterminés. Ce qui est intéressant déjà avec le tourisme sportif, c'est qu'il y a plein de tourismes sportifs différents et donc le travail de définition en tant que tel est déjà assez assez intéressant, parce qu'il y a le tourisme sportif de pratique qui paraît assez évident, c'est quand vous partez en vacances ou en week-end pour faire du sport. Mais encore là, faut-il définir l'intentionnalité du sport? Est-ce que le sport est la motivation principale? Est-ce que le sport est une motivation parmi d'autres? Est-ce que vous allez faire du sport parce qu'on vous propose de l'activité sportive sur place, mais vous n'aviez pas prévu au départ? Donc on a décidé de retenir comme tourisme sportif seulement les premiers et les seconds, c'est-à-dire au moins un déplacement d'une journée et par ailleurs la place qu'occupe le sport dans les vacances. Il faut que la pratique sportive soit au moins un élément complémentaire de l'activité touristique, avec une intentionnalité dès le départ de faire cette activité touristique. Mais le tourisme sportif, c'est aussi, on en parle moins, le tourisme sportif de visite. C'est-à-dire que un Néerlandais qui va venir en vacances à l'Alpe d'Huez, je parle pas pour voir une étape du Tour de France, hein, mais qui va venir à l'Alpe d'Huez parce que c'est l'Alpe d'Huez qu'il connaît et qu'il a envie de voir ce lieu mythique du vélo, c'est aussi du tourisme sportif parce que c'est lié au sport. Il y a des touristes sportifs qui vont venir visiter des stades. Alors en France c'est un petit peu, mais en Espagne le Camp Nou c'est le musée le plus visité d'Espagne, je crois, ou quasiment. Donc il y a ce tourisme sportif de visite. Il y a un tourisme lié au spectacle sportif. C'est forcément, si tu te déplaces pour aller à une compétition sportive, c'est du tourisme lié à ça. Puis il y a un tourisme d'affaires lié au sport. On a parlé de l'économie du sport. Forcément il y a un tourisme d'affaires lié à tout ça. Là dans l'étude on s'est vraiment attardé sur le tourisme sportif de pratique et le tourisme sportif de visite. Je vais pas vous faire toute l'étude, hein, parce que forcément il y a énormément de réflexion autour de cette étude, mais ce qui est super intéressant pour moi quand même, c'est que un Français sur trois qui pratique aujourd'hui le tourisme sportif, on parle de 11 millions de Français qui font du tourisme sportif de pratique, c'est-à-dire qui ont une forte aspiration d'activité physique en vacances. On parle de 5 millions de Français qui pratiquent le tourisme sportif en itinérance. Ça, c'est vraiment nouveau et c'est quelque chose de très intéressant.
Tu peux expliquer ce que ça veut dire, en itinérance?
Bah, quand vous faites un trek, c'est du tourisme sportif en itinérance, et de plus en plus aujourd'hui, il y a les parcours en vélo, c'est-à-dire que les gens partent en vacances en vélo, ils vont se faire 4 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours de vélo, avec des réservations de gîtes au fur et à mesure. Alors forcément, on connaît surtout avec la randonnée, les GR, etc., mais ça arrive de plus en plus en vélo. Ça, c'est le tourisme sportif d'itinérance qui est en train de prendre une place vraiment importante aussi. Et puis le tourisme sportif de visite, c'est 5 millions de personnes aussi par an, donc c'est quelque chose de très intéressant. Et si on est un Français sur 3 qui pratique déjà le tourisme sportif, en termes d'intention, on est à 2 Français sur 3 qui indiquent leur intention de pratiquer le tourisme sportif à l'avenir. Donc on est vraiment sur quelque chose de très important. On est sur une tendance de fond. J'aime bien rappeler qu'on parlait de l'or blanc avec la neige, de l'or bleu avec la mer, de l'or vert avec la campagne et la nature. Là, c'est vraiment ces trois tourismes-là notamment qui sont extrêmement importants. C'est important aussi de comprendre à quel point ça fait partie du patrimoine français, ça fait partie de l'attractivité française, cette capacité de partir en vacances et de faire du sport en vacances. C'est quand même une forte, forte particularité de notre pays sur laquelle il faut capitaliser. Et puis évidemment, et je finirai là-dessus, à la fois c'est extrêmement intéressant et à la fois c'est extrêmement inquiétant, parce que il y a un très, très grand nombre de professionnels que nous avons pu interroger, 82% exactement, qui se disent préoccupés par les conséquences du réchauffement climatique, et 78% qui se disent déjà touchés par les conséquences du réchauffement climatique. On pense au ski, bien sûr, ça c'est évident pour tout le monde, qu'il va y avoir de moins en moins de neige et que ça touche, mais ça touche tout le monde. C'est la sécheresse pour ceux qui proposent la location de canoë kayak ou autres dans toutes les régions françaises qu'on connaît. C'est le réchauffement climatique qui fait qu'on peut plus pratiquer le sport l'été, ou qu'on peut plus faire 100 bornes à vélo à midi en juillet, parce que s'il fait 50 degrés à l'ombre, forcément ça devient quand même de plus en plus compliqué, etc., etc. Donc à la fois quelque chose qui est assez extraordinaire en termes de potentiel, mais qui est inquiétant par rapport au réchauffement climatique, mais qui est quand même intéressant parce que le tourisme sportif, ça peut être aussi du tourisme sportif de proximité. C'est-à-dire qu'on a tous la possibilité de faire du tourisme sportif à 1, 2, 3 heures de chez nous. Et que dans tourisme sportif, il y a sport et donc il y a lutte contre la sédentarité. Et ça, on ne va pas y revenir éternellement, mais tu sais à quel point j'y suis attaché.
Ouais. Écoute, super. Il y a des boîtes dans le tourisme sportif qu'on peut citer, peut-être Sportihome, qui permet de dormir chez un passionné de sport et puis de faire du sport. Est-ce que tu as d'autres boîtes comme ça qui se seraient un peu positionnées sur ce jalon?
Ouais, il y en a plusieurs. Il y a Spotiride qui permet de trouver les lieux justement où on peut facilement louer des activités nautiques ou autres. Il y a Decathlon Travel qui a annoncé quelque chose de super intéressant sur ce sujet, où on a le package tout compris. Donc oui, il y a de plus en plus de boîtes qui commencent à aller sur ce secteur-là. Il y a pas mal de boîtes qui se sont spécialisées dans, on parlait du tourisme en itinérance, le tourisme itinérance à vélo. Aujourd'hui, il y a plein de tours opérateurs en France qui organisent complètement votre tour à vélo en vous permettant d'avoir votre bagage qui vous suit si vous n'avez pas envie de le prendre avec vous sur le vélo, en ayant les bonnes réservations au bon endroit, en ayant l'assistance technique, parce qu'en vélo, c'est quand même un frein pour beaucoup de gens. La peur de partir 5 ou 10 jours en vélo, c'est qu'est-ce que je fais si je crève, qu'est-ce que je fais si, parce que, moi, je fais beaucoup de vélo. Aujourd'hui, on fait un concours de chronomètre avec nos potes pour savoir qui a réussi à réparer ses roues plus rapidement, mais c'est pas le cas de tout le monde et ça peut vite être problématique pour plein de gens. Et puis, à vélo, t'as plein d'autres problèmes, hein. Moi, je fais le malin avec les roues, mais si mes freins cassent, je suis pas sûr de savoir remettre le cap tout seul ou racheter le cap tout seul. Donc, il y a beaucoup de tour opérateurs aussi sur ces sujets-là. Et globalement, il y a pas mal de boîtes, effectivement, qui sont en train de se lancer, de se lancer sur ce sujet très porteur.
Je citerai aussi Explora Project, qui a fait pas mal parler de lui récemment. Écoute, je te propose qu'on clôture avec un peu de prospective sur le sport, et notamment une étude qui avait été lancée par nos amis suisses, me semble-t-il, et tu voulais revenir dessus.
Ouais, une étude qui a été lancée par un observatoire du sport à Vaud sur l'avenir du sport en 2030. Mais au-delà de l'étude, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la manière dont le canton de Vaud a défini son concept cantonal du sport et de l'activité physique, basé notamment sur cette étude prospective qui s'appelle Horizon 2035, tout un canton en mouvement. Donc forcément, ça me parle quand on parle politique sportive du sport. En intitulé, c'est une politique sportive durable et transversale. Donc ça me parle aussi beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que on voit dans cette prospective et dans d'ailleurs le projet du canton de Vaud le fait que le sport va être forcément rattaché à des problématiques de société majeure. Alors il y a un côté un peu problématique parce que des fois on a juste envie, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le sport ça soit un loisir, que ça soit un amusement et que ça soit du plaisir. Néanmoins, la politique sportive, elle se conçoit aujourd'hui, et cette étude et le projet cantonal le montrent très bien, à l'aune des problématiques et des politiques de santé, à l'aune des problématiques d'environnement et de climat, et à l'aune des politiques d'inclusion et d'intégrité. Et c'est ce que fait très bien, ce qu'explique très bien ce document, à la fois cette étude prospective et cette politique sportive du canton de Vaud, avec 5 grands axes, un grand axe autour du sport populaire et de l'activité physique. Et je trouve ça intéressant. Tout simplement, la phrase qui vient expliquer cet axe sport populaire et activité physique, c'est favoriser le développement de la pratique sportive et physique au sein des clubs et en dehors des structures sportives traditionnelles. Ça paraît tout simple, mais le en dehors des sportifs, des structures sportives traditionnelles, aujourd'hui, politiquement, il y en a peu qui l'assument quand même. Alors, on est en Suisse, on n'est pas en France, je connais moins les relations directes qu'il y a avec le mouvement sportif, mais les politiques sportives ont du mal à assumer ce côté-là de temps en temps. Là, il est assumé clairement, c'est-à-dire que l'important, c'est que les gens fassent du sport. Si ça peut passer par les clubs et les associations, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Il parle ensuite du sport scolaire, on en a déjà parlé aussi ensemble. Il parle du sport international, de l'économie et de la recherche. Je trouve ça intéressant aussi, de plus en plus. C'était le cas aussi dans le projet de Brisbane 2032, quand ils disent quel sport en Australie à l'aune des JO de 2032. Il y a toute une partie dédié à l'économie du sport. On en revient au point premier de cette émission du jour dont on a parlé, mais encore une fois, la reconnaissance de l'économie du sport et du côté économique. Il parle quand même du sport d'élite et de la promotion de la relève, c'est-à-dire de la jeunesse, comment la jeunesse va se projeter sur ce sport d'élite, ce haut niveau. Et puis, les infrastructures sportives, et toujours là, ils mettent infrastructures sportives et espace pour le mouvement. Les mots ont du sens, c'est-à-dire qu'on parle plus, pas seulement de multiplier les infrastructures sportives, on parle de créer des infrastructures sportives, mais aussi d'avoir des espaces dédiés au mouvement dans nos villes, dans nos campagnes, et ces mots-là, je les trouve super intéressants, parce que c'est pas juste, on va faire plus de stades, on va faire plus de complexes, on va faire plus de salles, c'est non, on va réfléchir bien sûr à ces équipements, mais aussi aux espaces de manière générale, et c'est quelque chose qui me semble très intéressant.
Écoute, super, c'est le mot de la fin, merci infiniment, et à très très vite.
Merci Pierre, à bientôt.
Merci d'avoir écouté Dream Team, j'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr, à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine causerie.